Bonsoir à chacun et chacune. Je vous invite à ouvrir vos Bibles. Nous allons lire un premier passage d'introduction dans Marc chapitre 12. Marc chapitre 12 et le verset 13. Un passage où des pharisiens posent des questions à Jésus, une question en particulier, et qu'ils ne le font pas dans de bonnes intentions en plus. Mais tout ça pour dire qu'il y a des choses auxquelles nous avons droit et puis il y a des choses que nous devons faire. Et des fois, on n'a pas forcément envie de les faire, mais on doit les faire. Là, en l'occurrence, il est question de payer l'impôt. Marc 12, verset 13. Ils envoyèrent auprès de Jésus quelques-uns des pharisiens et des hérodiens, afin de le surprendre par ses propres paroles. Et ils vinrent lui dire, « Maître, nous savons que tu es vrai, que tu ne t'inquiètes de personne, car tu ne regardes pas à l'apparence des hommes, et tu enseignes la voie de Dieu selon la vérité. Est-il permis, ou non, de payer le tribut à César? Devons-nous payer ou ne pas payer ?» Jésus, connaissant leur hypocrisie, leur répondit, « Pourquoi me tentez-vous? Apportez-moi un denier afin que je le voie. » Ils en apportèrent un, et Jésus leur demanda, « De qui sont cette effigie et cette inscription ?» « De César, lui répondirent-ils. Alors il leur dit, « Rendez à César ce qui est à César, et à Dieu ce qui est à Dieu. » Et ils furent à son égard dans l'étonnement. Amen. Devons-nous ou ne devons-nous pas payer l'impôt en l'occurrence? Mais il y a toutes sortes de questions qu'on pourrait se poser quant à ce qu'on doit faire et ce qu'on ne doit pas faire. Et Jésus a bien répondu dans le sens aussi où il a dit, il y avait des choses qu'on doit faire d'un point de vue terrestre, payer l'impôt ça concerne la vie terrestre, mais il y a des choses qu'on doit faire d'un point de vue spirituel. Il y a des choses qu'on doit rendre à Dieu, rendre à Dieu ce qui est à Dieu. Il y a des choses, des obligations qui sont là. Bien sûr, quand on vient dans l'église, on sait que le Seigneur, il se plaît à faire grâce, il se plaît à bénir. Et il y a des choses auxquelles on a droit quand on vient dans une assemblée avec foi. On croit qu'on a droit à la compassion de Dieu, à l'amour de Dieu, à toutes sortes de choses. Mais il y a aussi des obligations. C'est pareil dans le domaine terrestre. Il y a plein d'exemples autour de nous. Si on est des citoyens français, on a des droits, on a des devoirs. Vous les connaissez, mais j'en ai rappelé quelques-uns. On a le droit de voter, mais on a le devoir de défendre son pays si jamais on est en guerre. Vous comprenez? Et on a le droit à la protection sociale. Et combien on est heureux d'être dans un pays où il y a cette protection sociale, la sécurité sociale, la retraite, les RMI, congé de maternité, le SMIC, tout ce que vous voulez. Mais on a le devoir de payer aussi, nous, les impôts. Et c'est normal. Tout ça, ça s'explique. Le droit ne peut pas, on ne peut pas n'avoir que des droits. Il faut qu'il y ait des droits, il faut qu'il y ait des devoirs. Et dans la parole, dans l'évangile de Jean en particulier, on voit qu'il y a plusieurs « il faut », il y a plusieurs obligations qui sont données, et on se rend compte que notre devoir, ça dépend beaucoup du contexte. Quand on est en France, notre devoir, si on a une voiture, c'est d'obéir au code de la route. Mais vous allez en Inde, j'ai vu une vidéo où on voit la circulation en Inde, je ne sais pas si vous avez vu ça sur Internet, mais vous avez le droit aussi de prendre votre voiture et de vous promener, mais vous avez le devoir de faire attention parce que là, il n'y a pas de code de la route là-bas, c'est la loi du plus fort. Celui qui est le plus fort, il passe, celui qui est le plus rapide, il passe, celui qui arrive à se faufiler, tout le monde va dans toutes les directions, toutes les voies, celui qui veut tourner, il tourne, pas de clignotant. Je vous invite à regarder la vidéo si vous voulez, sur Internet. En tout cas, ça dépend vraiment de l'endroit. En Inde, c'est comme ça. En France, si on s'amuse pendant 5 minutes à conduire de cette manière, il y a 18 accidents en peu de temps. Mais dans le domaine spirituel, combien c'est important de connaître quelles sont nos obligations. Mais avant de pouvoir peut-être parler de nos obligations, j'aimerais vous proposer cette vérité que Jésus lui-même, il a prononcé des « il faut » concernant sa personne à lui. Et c'est important de voir que Jésus aussi, il avait certains devoirs, certaines missions à accomplir. Jean chapitre 9, on va rester maintenant dans l'évangile de Jean. Et dans Jean chapitre 9, on voit dans ce contexte de la guérison d'un aveugle, qui est un aveugle de naissance, juste avant qu'il soit guéri, que Jésus intervienne en sa faveur en fait. Jésus a dit cette parole. Jean chapitre 9, verset 4, « Il faut que je fasse... « Tandis qu'il est jour, les œuvres de celui qui m'a envoyé, la nuit vient où personne ne peut travailler. » Il faut que je fasse, tandis qu'il est jour, les œuvres de celui qui m'a envoyé. Jésus avait un devoir d'obéissance quand il était sur la terre. Son devoir, c'était de se soumettre à la volonté de Dieu. Son devoir, c'était de produire les miracles que Dieu lui montrait qu'il devait faire. Afin, quel était le but de cette attitude? C'était de manifester Dieu aux hommes. C'était de montrer que Dieu était intéressé envers les hommes, à les bénir, intéressé à les secourir, intéressé à les pardonner, intéressé à faire toutes sortes d'actions envers les hommes. Les pharisiens de l'époque donner l'image que Dieu était lointain, rigoureux, compliqué, et qu'il fallait avoir un cerveau à 18 étages pour comprendre ce que Dieu demandait. Jésus est venu montrer que c'était tellement plus simple. Ça dépendait de notre cœur, de notre foi. Il faut que je fasse, tandis qu'il est jour, les œuvres de celui qui m'a envoyé. Et Jésus a dit quelque part plus loin, ou non, juste avant, il a dit, le Fils ne peut rien faire de lui-même. Il ne fait que ce qu'il voit faire au Père. Combien, quand on est chrétien, c'est quelque chose aussi qui nous interpelle. Est-ce que le matin, quand on présente notre journée devant le Seigneur, on dit, Seigneur, oui, je ne veux faire que ce que tu vas me montrer que je dois faire. En tout cas, Jésus, quand il était sur la terre et qu'il a fait exactement ça, il a fait parfaitement, il a fait en étant en communion parfaite avec le Saint-Esprit, il a montré aux hommes que Dieu voulait guérir, que Dieu voulait bénir, que Dieu voulait faire du bien. Et quand les foules étaient là, et qu'il les a vus accablés par la faim, accablés par la fatigue, il est venu pour les rassasier, il a accueilli ce que tout le monde rejetait, il a fortifié ceux qui étaient faibles. Et dans ce contexte en particulier de ce miracle, nous voyons cette vérité qui ressort aussi, c'est que toutes les épreuves que l'on peut traverser, ce sont des occasions de glorifier Dieu. Les disciples, ils disaient, mais qui c'est qui a péché? Est-ce que c'est l'aveugle? Est-ce que c'est ses parents? Est-ce que c'est quelqu'un d'autre? Et Jésus a dit, non, c'est pas cette histoire-là. C'est que Dieu veut se manifester, Dieu veut se glorifier au travers de cette épreuve. Est-ce que nous regardons aussi les épreuves comme des moyens de glorifier Dieu? Combien ça, c'est quelque chose qui doit nous interpeller. En tout cas, Jésus, par son devoir d'obéissance, a montré que Dieu était bon. Mais il y a quelque chose que je voudrais faire ressortir ce soir, c'est que ce n'est pas parce que Dieu est bon seulement qu'on est sauvé. Parce que quelqu'un peut expérimenter la bonté de Dieu, quelqu'un peut être guéri, quelqu'un peut être touché et ne pas être sauvé. Et je réfléchissais avec peine à ces personnes, je ne sais pas combien il y en aura, mais qui seront dans l'éternité en enfer et qui vont un jour vont réfléchir en disant « Mais oui, j'ai expérimenté la bonté de Dieu et pourtant je suis en enfer ». Combien de personnes ont été guéries? Combien de personnes ont trouvé un travail? Combien de personnes ont été réconciliées dans leur famille suite à la prière dans une église ou un pasteur ou un chrétien qui a prié pour eux? Dieu a exaucé par sa bonté et sa grâce. Mais elles n'ont pas fait le pas de suivre Jésus. Jonathan, cet après-midi, nous parlait des 10 lépreux. Sur les 10 lépreux, il n'y en a qu'un qui est venu se convertir, se jeter aux pieds de Jésus et lui rendre grâce. Les 9 autres, on ne sait pas ce qu'ils ont fait. Et on espère qu'ils ont fait plus tard la même chose. Mais combien ont réellement fait une expérience avec le Seigneur, mais l'expérience de donner leur vie au Seigneur Jésus tout entier. En tout cas, Jésus avait ce devoir d'obéissance. Jean chapitre 3, verset 14, il est dit ceci. Jean chapitre 3, verset 14. « Comme Moïse éleva le serpent dans le désert, il faut de même que le Fils de l'homme soit élevé, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Il faut que le Fils de l'homme soit élevé. » Voilà ce qui complète très bien le devoir d'obéissance qui montre la bonté de Dieu. Jésus est venu aussi manifester la justice et l'amour de Dieu. La justice parce que le péché devait être puni. Il fallait que Jésus aille jusqu'à la croix parce que le péché devait être puni, mais parce qu'il y a aussi l'amour de Dieu qui entre en compte. Jésus a pris notre place. Jésus a pris notre péché et a reçu sur lui la condamnation. Sans le passage à la croix, il n'y aurait pas de salut possible. Mais Jésus, Michael l'a rappelé tout à l'heure, Jésus a tout fait volontairement. À chaque seconde des moments où il souffrait, il aurait pu arrêter les choses. Un claquement de doigts, si je puis dire, et la situation aurait été totalement renversée. Des légions d'anges seraient apparues et seraient intervenues. Mais il n'a pas voulu, parce qu'il avait en vue notre salut. Il voulait nous sauver. Un devoir d'expiation. Expiation, ça veut dire qu'on est châtié à la place de quelqu'un d'autre. On est puni à la place de quelqu'un d'autre. Et c'est ce qui s'est passé pour nous qui étions pécheurs. Jésus a pris notre place et le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Maintenant, nous pouvons être bénis. Et Dieu a le droit de nous bénir. Parce que souvent, on met en question la justice de Dieu. Vous êtes d'accord? On entend les gens qui disent « Mais si Dieu était juste, il ferait ceci ou cela. » Mais est-ce que ce n'est pas une définition incroyable de la justice que Dieu a choisi d'élever son Fils sur la croix, de le faire passer par cela, afin que nous soyons sauvés, mais surtout afin que le péché soit puni, afin qu'il puisse nous bénir. Parce que si Dieu nous avait bénis avant la croix, est-ce que ça aurait été juste si notre péché n'avait pas été expié justement? Est-ce que ça aurait été juste que Dieu nous bénisse? Alors il y a cette bénédiction que je parlais de la grâce tout à l'heure, mais il y a cette bénédiction abondante que Dieu veut. Regardez ce qui suit le verset qu'on connaît tellement bien. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Dieu veut pas seulement se contenter de nous sauver, mais il veut nous accorder la bénédiction de la vie éternelle. C'est-à-dire que sur la terre, nous commençons à goûter à une vie qui a quelque chose de divin et qui va continuer même après notre mort. Si Jésus a eu ce devoir d'expiation, ça nous donne la possibilité à nous de vivre la grâce d'être bénis par le Seigneur. Et Je vous invite à lire dans Jean chapitre 10, ce troisième devoir du Seigneur, combien il est bon que ça soit écrit. Jean chapitre 10, verset 16, c'est un contexte où Jésus parle qu'il est le bon berger qui a donné sa vie pour ses brebis. Et verset 16, il est dit « J'ai encore d'autres brebis qui ne sont pas dans cette bergerie. Celles-là, il faut que je les amène. Elles entendront ma voix, il y aura un seul troupeau. » Un seul berger. Amen. Il faut que je les amène. Jésus n'est pas resté sur la croix, Jésus n'est pas resté au tombeau, Jésus est ressuscité le troisième jour, il est monté au ciel, il s'est assis à la droite du Père, sur le trône de la grâce, et maintenant, par le Saint-Esprit, il agit. Maintenant, il continue d'agir, et l'action qu'il fait, le devoir qu'il doit faire, parce qu'il nous aime et parce qu'il aime l'humanité, il a ce devoir d'amener les brebis qui ne sont pas encore dans la bergerie, de les amener dans sa bergerie. C'est le Seigneur qui le fait. Bien sûr qu'il utilise les moyens humains, matériels qui sont sur la terre, et des personnes qui sont remplies de son esprit pour être utilisées par lui, mais c'est Jésus qui le fait, par son esprit. Et quand on voit ce qu'il fait, il amène les personnes. Et mes questions sont là. Il faut que je les retrouve, ma question qui est marquée quelque part. Est-ce que nous sommes de ces brebis qui ne sont pas encore entrées dans la bergerie? Peut-être qu'on a fait l'expérience déjà d'être rentré dans cette bergerie. On ne sait pas, enfin on sait parce qu'on l'a vécu, mais quand on prend du recul et qu'on regarde notre témoignage, on se dit « Mais oui Seigneur, j'avais pas du tout envie d'aller dans une église, et puis je ne sais pas comment je me suis retrouvé là. Et c'est à cet endroit-là que j'ai entendu l'évangile, que mon cœur a cédé. » On ne sait pas comment ça s'est passé pour chacun d'entre nous. On sait comment ça s'est passé pour nous quand on l'a vécu. Ce qui est sûr, c'est que le Seigneur Jésus, il conduit les temps et les circonstances. Et encore maintenant, si ce soir vous êtes là, le Seigneur a permis que vous soyez là pour entendre la parole de Dieu, pour entendre la voix du Seigneur. C'est justement ce que fait le Seigneur. Il faut que je les amène, elles entendront ma voix. Ce soir, est-ce que nous voulons entendre la voix de Dieu, cette voix qui résonne dans notre cœur et qui nous dit « Mais as-tu pensé à ton éternité? As-tu pensé au jour où tu vas te présenter devant Dieu ?» Est-ce que nous entendons cette voix ce soir? Est-ce que nous entendons le bon berger qui est en train d'appeler et de dire « Mais oui, venez faire partie de mon troupeau et je vous conduirai. » Quand on voit le psaume 23, la merveille que c'est que d'être conduit par le bon berger, l'Éternel est notre berger, celui qui nous mène vers de verts pâturages. Quand on voit une brebis qui est en train de manger avec allégresse des verts pâturages, on imagine spirituellement ce que cela peut représenter. Est-ce qu'il n'y a pas des choses dont on a besoin et qui nous feraient du bien, qui nous fortifieraient? Est-ce que Dieu n'est pas celui qui peut nous les donner justement? Il faut que je les amène. Jésus doit être notre berger. Alors ce soir, laissez-le vous conduire. Ce soir, écoutez sa voix. Ce soir, rentrez dans son troupeau. Laissez au Seigneur la possibilité d'agir. Ce n'est pas le Seigneur qui ne veut pas agir. C'est souvent nous qui bloquons. C'est souvent nos cœurs qui sont fermés. Et c'est à nous d'ouvrir. Maintenant, s'il fallait que Jésus fasse certaines choses, il faut que nous fassions notre part surtout. Jean chapitre 3, on n'est pas loin. Jean chapitre 3, verset 7. On peut lire à partir du verset 5 même. Où c'est ce moment où Jean raconte l'histoire de Nicodème qui vient voir Jésus. Nicodème, un docteur de la loi. Et au verset 5, Jésus lui répond, « en vérité, je te le dis, si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Ce qui est né de la chair est chair, et ce qui est né de l'esprit est esprit. Ne t'étonne pas que je t'ai dit, il faut que vous naissiez de nouveau. » Amen. Il faut que vous naissiez de nouveau. Il y a une obligation que nous devons vivre pour avoir le droit d'entrer. Vous vous souvenez, le droit et le devoir? Le devoir, c'est de naître de nouveau. Le droit, c'est d'entrer dans le royaume de Dieu. Si nous voulons entrer dans le royaume de Dieu, il nous faut naître de nouveau. Et pour ce docteur de la loi qui connaissait, bien sûr, les Écritures par cœur, il avait du mal à comprendre ces choses, parce qu'il essayait de les comprendre avec son intelligence terrestre. Alors que Jésus ne lui demandait pas cela, il lui demandait d'ouvrir son cœur. Et il lui demandait surtout de naître de nouveau. Il lui a expliqué un petit peu juste après, « Le vent souffle où il veut, tu en entends le bruit, mais tu ne sais d'où il vient ni où il va. Il en est ainsi de tout homme qui est né de l'esprit. » Et c'est sûr que le vent, pour savoir s'il y a du vent, c'est pas qu'on le voit le vent, mais on sait si les arbres y bougent, on entend le courant d'air qui va dans les feuillages, etc. Il y a des effets. On voit les effets. On entend les effets du vent. Et pour quelqu'un qui est né de nouveau, c'est la même chose. Quand l'Esprit de Dieu a transformé une personne, quand l'Esprit de Dieu a changé, a donné la vie éternelle à une personne, il y a des effets qui prennent place et on se rend compte que la personne, elle est née de nouveau. Mais pour que ça arrive, il faut par contre, il faut accepter ce qu'on vient de partager, que Jésus a dû être élevé. Il faut se repentir. Je pensais à cette parole qu'il a dit juste avant, si quelqu'un ne naît d'eau et d'esprit. Et souvent les gens croient que l'eau dont il est question, c'est l'eau du baptême. Dès que je suis baptisé, je suis né d'esprit. Non, c'est pas ça. L'eau, ça nous parle de la parole, l'enseignement de la parole. Quand on reçoit, quand on ouvre notre cœur à l'enseignement de la parole, alors il y a un nettoyage qui se fait. Quand on ouvre notre cœur à la vérité que le sang de Jésus a coulé, alors notre cœur peut être purifié. Et seulement si nous recevons cette vérité-là. La foi qui peut nous sauver, c'est la foi en Jésus. Et si j'accepte cette parole que Jésus est mort pour moi, automatiquement il y a quelque chose qui va se produire, c'est que je vais demander pardon. Seigneur, c'est moi qui t'ai conduit sur la croix. Je me souviens le jour où, quand j'étais encore enfant, j'ai compris la première fois que Jésus était mort pour mes péchés. Je me souviens que j'avais cette image, et j'avais, je crois, 8 ou 9 ans, et je pleurais, parce que je me rendais compte que c'était à cause de moi. Et que s'il y avait eu que moi sur la terre, Seigneur Jésus aurait dû aller à la croix quand même, parce que j'étais pécheur. Je n'avais pas commis de crime atroce, mais j'avais conduit le Seigneur à mourir sur la croix. Et combien c'est important. Et l'action du Saint-Esprit dans la vie, c'est justement de convaincre que nous sommes pécheurs. Ça nous pousse à la repentance. D'ailleurs, il y a un texte qui dit, qu'on a souvent pris, que la bonté de Dieu nous pousse à la repentance. C'est bien de connaître la bonté de Dieu dans la bénédiction, dans le fait que Dieu va nous guérir, mais c'est encore mieux de connaître la bonté de Dieu jusqu'au point d'être poussé à la repentance et de comprendre que oui, ce sacrifice, il était pour moi. Et comment naître de nouveau? Eh bien, il faut continuer à ouvrir son cœur à la parole et aller plus loin, à comprendre qu'on est, oui, on est pécheur, mais qu'on est justifié aussi, qu'on est justifié par la grâce de Dieu. Justifié par la foi, justifié par le sang de Jésus qui a coulé. C'est ce que nous ne pouvions pas faire avant, être juste devant Dieu. Dieu nous l'accorde simplement. Il faut que vous naissiez de nouveau. Dans Jean chapitre 4 maintenant, et au verset 20, vous savez, c'est ce moment où Jésus parle à la femme samaritaine, et il lui dit cette parole. On peut lire à partir du verset 21. « Femme, lui dit Jésus, crois-moi, l'heure vient où ce ne sera ni sur cette montagne, ni à Jérusalem que vous adorerez le Père. Vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Nous, nous adorons ce que nous connaissons, car le salut vient des Juifs. Mais l'heure vient et elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Car ce sont là les adorateurs que le Père demande. Dieu est esprit, et il faut que ceux qui l'adorent, l'adorent en esprit et en vérité. Amen. Il faut que ceux qui l'adorent, l'adorent en esprit et en vérité. Quand on voit cette femme, elle avait une certaine notion de l'adoration, mais ça se résumait plus à des actes religieux. Et surtout pour elle, quand on voit comment elle en parle, elle dit justement, il faut adorer. Vous dites qu'il faut adorer à Jérusalem. Pour elle, le problème dans l'adoration, c'était surtout l'endroit géographique. Et Jésus est en train de lui dire, c'est pas une question d'endroit, c'est même pas une question de rituel, c'est une question de personne et d'être. Il faut que l'adorateur, dit Jésus. Elle dit, il faut qu'on adore quelque part. Jésus dit, il faut que l'adorateur adore en esprit et en vérité. Et combien de religions disent aujourd'hui, c'est important d'aller dans telle ville, tel endroit pour être béni. Et il y a toutes sortes de villes qui sont données. On nous dit qu'il faut aller à Lourdes, on nous dit qu'il faut aller à Rome, on nous dit qu'il faut aller à Saint-Jacques-de-Compostelle, on nous dit qu'il faut aller à la Mecque, on nous dit qu'il faut aller à Jérusalem même. Est-ce que dans ces endroits, on sera plus béni qu'un autre ? Non, parce que c'est un problème de cœur. Si notre cœur ne change pas, mais quand on fait tous ces pèlerinages, on va dans toutes les villes, même en Inde, je ne sais pas s'il y a la ville particulière pour le... C'est au Népal peut-être ou... Ah. Oui, enfin voilà. Dans l'Himalaya, vous trouvez là sur la carte. Et vous trouverez toutes sortes d'endroits où on vous dira, là, vous allez être béni. Mais si notre cœur ne change pas, à quoi ça sert ? Si on n'est pas... Dans le fort intérieur de notre être, si on n'est pas changé, transformé, à quoi ça sert d'aller et de faire des kilomètres et des kilomètres? Jésus, il a dit non, l'adoration que Dieu demande, c'est une adoration en esprit et en vérité. Certaines personnes croient qu'elles adorent Dieu en se cachant derrière leur rite, justement. Et même nous, on peut tomber dans ce travers-là en se disant « je viens à l'église, donc j'adore Dieu, je prie, donc j'adore Dieu, je fais ceci ou cela pour Dieu, donc je l'adore. » Mais si ça sert que des excuses et que dans notre cœur, on n'est pas vrai devant Dieu, ça ne sert strictement à rien. Je pensais à cet exemple d'un enfant qui dit à sa maman « Maman, tu es la meilleure. Maman, tu es la plus belle. Maman, tu cuisines divinement bien. Maman, tu es super intelligente. » C'est super, on voudrait tous que les enfants disent ça à leurs parents. Mais si derrière l'enfant, il n'écoute pas sa maman, il désobéit, il fait n'importe quoi, à quoi ça sert ? À quoi ça sert ? C'est la même chose qu'un chrétien qui adore le Seigneur par les chants et qui après a un comportement totalement différent, n'obéit pas. À quoi ça sert ? À rien. Jésus a dit, il faut adorer en esprit et en vérité. Adorer, ça veut dire... Même quand on n'est pas à l'église. C'est facile d'adorer à l'église, mais quand on n'est pas à l'église. Quand on n'est pas avec des chrétiens. Quand on est avec des non-croyants. C'est plus dur d'adorer. Et c'est là que le Seigneur aussi regarde. Ça veut dire aussi adorer quand on est seul. Des choses qu'on se permet des fois de faire quand on est tout seul. Mais justement, c'est là que le Seigneur regarde. Si on est un adorateur, en esprit, en vérité. Parce que c'est là qu'on est vrai, justement, quand on est seul. L'adoration, c'est de choisir, de rejeter ce qui se fait dans le secret, les choses honteuses qui se font dans le secret. C'est de choisir de marcher dans l'obéissance, quelles que soient les circonstances. J'avais ce verset à cœur, je vous le cite, Hébreux 12, 28. C'est pourquoi, recevant un royaume inébranlable, montrons notre reconnaissance en rendant à Dieu un culte qui lui soit agréable, avec piété et avec crainte. Remarquez qu'il dit « en recevant un royaume inébranlable », ça veut dire « maintenant que vous êtes rentré dans le royaume de Dieu, et on rentre dans le royaume de Dieu par la nouvelle naissance, mais maintenant que vous avez fait cette expérience-là de rentrer dans le royaume de Dieu, maintenant, montrez votre reconnaissance, rendez un culte à Dieu, adorez Dieu en esprit en vérité, comment ça se passe ? Avec piété et avec crainte. Une vie pieuse, une vie dans le respect de Dieu. » une vie dans l'obéissance. C'est comme ça que notre adoration sera approuvée de Dieu. Et justement, si notre devoir, c'est d'adorer en esprit et en vérité, le résultat, c'est que Dieu, il va nous approuver et il va nous combler de ses bénédictions, il va nous faire grâce. Quand on voit que c'est ce qu'il demande, c'est ce que le Seigneur soupire après. Il cherche des adorateurs en esprit et en vérité. Donc je crois que si quand il va en trouver un, je crois qu'il ne va pas le laisser tomber. Je crois qu'il va le bénir. Et je finis avec ce dernier passage dans Jean, chapitre 3, verset 30. C'est une parole de Jean-Baptiste. Alors que ses disciples lui disaient, mais ils baptisent, Jésus et ses disciples, ils baptisent plus de personnes que toi. Il y a plus de monde qui vont les voir. Il y avait comme une certaine jalousie qui était là. Jean-Baptiste, il va faire cette remarque. Au verset 28, il leur dit, vous-même m'êtes témoin que j'ai dit, je ne suis pas le Christ, mais j'ai été envoyé devant lui. Celui à qui appartient l'épouse, c'est l'époux, mais l'ami de l'époux qui se tient là et qui l'entend éprouve une grande joie à cause de la voix de l'époux. Aussi cette joie qui est la mienne est parfaite. Il faut qu'il croisse et que je diminue. Il faut que Jésus croisse et que nos mauvais penchants et notre homme, vieil homme, il puisse diminuer. Il faut que nous ressemblions de plus en plus au Seigneur. Il faut que nous marchions de plus en plus par l'Esprit. Il faut laisser le Seigneur nous transformer jour après jour. Et je réfléchissais à cette vérité. Comment est-ce qu'on peut être transformé sans être corrigé? C'est impossible. Quand on veut transformer quelqu'un, il faut absolument corriger certaines choses qui ne cadrent pas forcément. On peut être transformé en pire, bien sûr. Mais quand on parle de transformer en mieux, hein, vous avez compris. Parce que transformer en pire, il n'y a pas besoin de faire beaucoup d'efforts. Mais transformer en mieux par le Saint-Esprit qui agit en nous, ça demande des corrections. Et je réfléchissais, comment est-ce qu'on réagit quand on est corrigé? Il y a des personnes, quand on leur dit une remarque, pour leur bien, et vous savez comment elles réagissent, elles trouvent des excuses. Il y a des personnes qui se trouvent trop spirituelles. Je n'accepte des reproches que de Dieu. Moi, j'ai dit, c'est bien, mais les pasteurs, Dieu ne peut pas s'en servir de temps en temps pour reprendre. Non, il n'y a que Dieu qui me reprend. Bon. Et merci Seigneur pour vous, hein, si vous avez cette communion. Mais quand on voit les fruits, on se rend compte que ça ne marche pas. Comment est-ce qu'on peut réagir? En jouant la victime. Ah, mais pourquoi vous vous en prenez à moi? Pourquoi vous m'accusez? Pourquoi vous faites ceci ou cela? Ou souvent, on détourne l'attention. Mais regardez cette telle personne. Elle est pire que moi, elle fait ceci ou cela. Comment est-ce qu'on réagit face à la correction? Ou est-ce qu'on dit, ben non, Seigneur. C'est vrai, ce que mon frère ou ce que ma sœur m'a dit, c'est vrai, je veux le tenir. Je veux en tenir compte, je veux te demander pardon, je veux lui demander pardon si je l'ai blessé. Est-ce qu'on réagit avec humilité? Est-ce qu'on réagit avec joie? Dans les proverbes, il est question que quand on nous reprend, il faut être joyeux. Quand le sage nous reprend, ça ne veut pas dire qu'il faut l'embrasser, merci, alléluia. Mais quand on y réfléchit avec du recul, c'est une grâce que d'être repris, d'avoir un frère à côté de nous pour nous reprendre, ou une sœur, un ami qui est là et qui veut nous exhorter. Il faut qu'il croisse et que je diminue. Je crois que ce soir, que si on est de nouveau, si on devient un adorateur, il faut, c'est quelque chose qui est obligatoire, que Jésus prenne de plus en plus de place dans notre vie. Si notre vie ne manifeste pas de plus en plus le caractère de Jésus, alors il faut se poser les questions sur les étapes précédentes. Il faut qu'il croisse. Nous avons ce devoir de sainteté. Et si nous sommes de plus en plus saints, le Seigneur va pouvoir nous utiliser de plus en plus. Un droit d'être utilisé par le Seigneur. Je ne sais pas si vous revendiquez pour ce droit, mais je crois que c'est quelque chose auquel on devrait travailler. Bien sûr, pas aller manifester, mais dire, Seigneur, oui, je veux être de plus en plus saint. Je veux, Seigneur, être de plus en plus utile entre tes mains. Et inclinons nos fronts, fermons nos yeux et louons le Seigneur. Parce que dans son infinie bonté, oui, il nous demande de faire certaines choses, mais lui-même, il a fallu qu'il fasse beaucoup, tellement plus que ce qu'il nous demande. S'il nous demande d'obéir, lui-même, il a dû être obéissant, et il a été obéissant jusqu'à la mort. S'il nous demande de marcher dans la sainteté, lui, il a vécu sur terre dans la parfaite sainteté, résistant à toute tentation. Et ce soir, parce qu'il est vivant, il veut agir dans nos vies. Est-ce qu'il n'y a pas quelqu'un ce soir qui n'est pas de sa bergerie et qui entend sa voix? Cette voix d'amour, Oui, c'est vrai que Dieu est bon et qu'il veut guérir. C'est vrai que Dieu est bon, il veut intervenir, donner un travail. Mais Dieu veut tellement plus encore vous sauver. Dieu veut tellement plus encore vous amener dans son troupeau et prendre soin de vous et vous conduire jour après jour. Alors dans ces instants, mais simplement reconnaissez que c'est pour vous qu'il est mort à la croix. Repentez-vous, convertissez-vous et soyez nés de nouveau. Je vais prier le Seigneur. Merci Éternel, merci pour ta parole qui nous montre, oh Seigneur, oui, combien tu es ce Dieu plein de bonté, plein d'amour, plein de justice aussi, qui ne laisse pas le péché impuni, mais qui a choisi de punir le péché dans ton Fils, et qui a choisi aussi de faire grâce à tous ceux qui accepteraient cette vérité, ce sacrifice merveilleux. Merci Éternel de bénir encore ce soir les personnes qui sont là dans ce lieu. Tu connais les besoins, tu connais les difficultés. Tu sais Seigneur combien nous aimerions vivre certaines choses, nous aimerions profiter de certains droits que tu voudrais nous donner Seigneur. Mais tu nous demandes d'accepter aussi les obligations qui vont avec. Ô Seigneur, ouvre nos cœurs ce soir et permets-nous, à nous qui te connaissons déjà, de faire encore des progrès, de laisser, Seigneur, ton esprit nous transformer jour après jour, afin que, Seigneur, nous puissions être ces adorateurs en esprit et en vérité, que nous puissions aussi, Seigneur, être de ceux qui te laissent croître dans nos vies, dans notre caractère, Seigneur. Nous voulons manifester ton amour, manifester ta paix, manifester ta joie, ta patience, tous ces fruits de l'esprit, Seigneur, que tu m'as réservés à ceux qui te craignent. Oui, Jésus, nous voulons marcher dans la crainte de ton nom. Et Seigneur, nous croyons que ce soir encore, ces moments nous aident dans ce sens, Seigneur. Alors, par ton esprit, oui, fais retentir ta voix. Et Seigneur, que celui qui a foi en toi puisse te répandre son cœur devant toi et accéder au pardon de ses péchés. Merci, Éternel. Amen.